Bon, pour les... Eh bien, bonsoir. La dernière fois, à propos de l'aphorisme 19, de par de la bien et le mal, j'avais essayé de situer Nietzsche dans une tradition philosophique pour éviter de croire qu'il est une sorte de météore sans racines et sans assises. Et c'est pourquoi j'avais fait un petit excursus sur la pensée de Schopenhauer, à quoi d'ailleurs nous invitait le texte du paragraphe 19, puisque Nietzsche s'en prend dans ce texte de manière explicite à la conception de la volonté de Schopenhauer. Alors, je rappelle d'un mot que Schopenhauer insiste dans une perspective qu'il pense être kantienne sur la volonté plus que sur la représentation. Le monde de la représentation est le monde de l'illusion, ce qu'il appelle le voile de Maya, dont il faut tâcher de se défaire le plus possible par l'ascèse, en tout cas par le refus de se laisser prendre par les passions diverses. Mais ce retrait du monde de l'illusion ne peut aboutir qu'à la découverte que domine toujours et partout la volonté de vivre, volonté de vivre qui est présente y compris dans la matière, dans le végétal, dans l'animal, etc. Volonté de vivre qui nous traverse, précisément dans la mesure où elle nous donne le désir de nous enfermer dans l'illusion. Mais si nous sommes suffisamment sages, nous en retirons pour découvrir d'ailleurs que cette volonté qui anime toute chose ne veut rien. Quelle est la volonté du néant? Et vous vous souvenez de ce texte dans lequel Schopenhauer explique que la bonne nouvelle, c'est de découvrir en effet cette présence du néant. Alors, nous retrouverons d'ailleurs des thèmes schopenhauériens. Comme nous savons, Schopenhauer a été la grande pensée influente et même destructrice, finalement, de Nietzsche lui-même. Et on pourrait dire que toute son itinéraire philosophique et existentiel a été de se désengluer de ce pessimisme radical de Schopenhauer. Et comme vous avez vu, il est difficile quand même de faire plus sombre que cette pensée. Alors, y est-il arrivé ou pas? Ben, nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous allons voir aujourd'hui dans les textes que nous examinerons, donc je reviens d'un mot sur le paragraphe 21 et sur le paragraphe 59, que cette pensée schopenhauerienne reste certainement très dominante sur le fond même de la position nietzschéenne, même s'il essaie de sortir par d'autres côtés de ce qu'il appelle le nihilisme entièrement négatif. Voilà, alors je rappelle donc que Nietzsche s'en prend ici au moins un aspect, mais certainement central de la pensée de Schopenhauer, l'idée de volonté. La critique très claire et finalement assez simple, c'est qu'il n'y a pas une volonté unique et simple qui traverserait toute chose, mais que la volonté est multiple, et que nous le découvrons d'ailleurs avant tout en nous-mêmes, puisque nous découvrons que notre volonté est une construction laborieuse, difficile. C'est une lutte entre ce que le texte appelle des affects, on pourrait le traduire peut-être par des pulsions, des forces qui traversent l'individu, et qui évidemment ne sont pas unifiées entre elles. D'où la nécessité d'avoir un affect des commandos, d'avoir un affect, une pulsion dominante qui arrive à créer l'unité relative, comme toujours, de ces pulsions. Et donc tout le combat se situe à l'intérieur de l'individu lui-même. S'il ne parvient pas, ou s'il parvient mal, à dominer ses pulsions, eh bien on va vers la folie, vers l'éclatement, ou plutôt vers ce que Nietzsche va appeler la volonté faible, c'est-à-dire celle qui, par exemple dans le ressentiment, est plutôt dominée par ses pulsions qu'elle ne les domine. La volonté forte ou noble ou aristocratique, nous retrouvons ces termes, est au contraire celle qui est capable de dominer ses pulsions, les dominer non pas pour les éteindre, et alors là Nietzsche n'est pas du tout, ne veut pas être dans une perspective d'ascèse, d'ascéticisme, mais pour les ordonner en vue d'un but que l'individu se donne. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que ce travail, s'appuie sur cet affect d'escommandos, et que la volonté de puissance n'est rien d'autre que cette capacité qu'a l'individu de vouloir dominer ses propres pulsions. Alors, nous trouvons ici un élément, je crois, essentiel, à savoir que la volonté de puissance s'exerce d'abord sur soi. Elle n'est pas une volonté de puissance qui s'exercerait sur autrui. Seul le faible, qui ne peut pas se dominer lui-même, cherche à dominer les autres par substitution. Mais le créateur, c'est celui qui est capable de donner une certaine unité à ses pulsions, et s'il donne cette unité, il n'a pas besoin de la chercher ailleurs en opprimant les autres. Ça, c'est un point, je crois, tout à fait essentiel, sinon on fait des contresens graves, je crois, sur la pensée nietzschéenne. Alors, l'autre question que nous avions entrevue et que nous allons cesser de retrouver, c'est que la grande question étant cette division de la volonté, la question va être de savoir quelle est la valeur de cette volonté. Qu'est-ce que je veux quand je veux dominer ou quand je veux me laisser dominer? C'est ce que Nietzsche va appeler, nous allons le voir dans un instant, la question morale, la morale. Quelle valeur je donne ou je ne suis pas capable de donner à cette domination de soi? Alors on voit déjà, c'est ce qui c'est, la grande division qui est en effet centrale dans ce livre, entre la morale servile et la morale aristocratique. La morale servile, c'est celle qui est incapable de se dominer elle-même, qui se laisse dominer par ses pulsions. Et la morale aristocratique, c'est celle qui, au contraire, parvient à cette domination, qui parvient de manière relative, car là, à nouveau, il n'y a pas d'un côté des faibles qui ne seraient que faibles et de l'autre côté des forts qui ne seraient que forts, mais il y a une graduation. Nous allons d'ailleurs le retrouver, ce thème, dans l'aphorisme 59. Alors, je reviens d'un mot sur le paragraphe 21 que nous avions survolé. Je ne vais pas revenir sur la totalité des choses. Ce qui est mis en cause ici, c'est le concept de causa sui, qui est un des grands concepts de la métaphysique classique, concept qui est en général attribué à Dieu. Ici, Nietzsche ne le fait pas directement, mais cette idée de causa sui s'applique particulièrement à Dieu. Dieu n'a pas de cause extérieure à lui, il est cause de lui-même. Il est une liberté qui se pose elle-même de manière totalement libre et sans aucune détermination qui lui serait extérieure. Sinon, il serait lui-même, il ne serait pas l'absolu, il serait dépendant d'un autre. Donc l'idée de causa sui relève de la métaphysique la plus classique, et on la retrouve d'ailleurs chez Spinoza et chez bien d'autres, et c'est cette notion que Nietzsche critique dans ce texte. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est assez anti-métaphysicien, si du moins on réduit la métaphysique à cette expression qui est en effet centrale dans la tradition métaphysique. Donc cela signifie que Dieu n'a pas de cause extérieure à lui-même, il n'a pas d'autre raison que lui-même, que sa volonté d'exister. Alors cette notion de causa sui, et notamment avec Descartes, que plus ou moins Nietzsche a dans le collimateur quand il parle de ces choses, cette notion est passée de Dieu à l'homme. C'est-à-dire qu'on a fait de la liberté humaine une liberté sans détermination. La liberté cartésienne est une liberté qui s'auto-détermine, et c'est d'ailleurs pourquoi Sartre admire tellement Descartes, au moins sous cet angle, puisque pour lui aussi, la volonté humaine est l'auto-position de soi, n'est-ce pas, sans aucune espèce de détermination extérieure. Donc c'est une notion qui s'est étendue à l'homme. Elle lui attribue ainsi l'entière responsabilité de lui-même. C'est une idée, je viens de le dire, qu'on trouve en effet chez Sartre et peut-être aussi chez Lévinas. Nous sommes responsables de nous-mêmes, mais aussi responsables de tout. Une liberté qui ne doit rien à, sinon à elle-même, à aucun antécédent. Alors Nietzsche prétend que cette position est légère, c'est le mot qu'il emploie, parce que justement elle ignore la complexité de la volonté. Elle croit que la volonté est une réalité simple et non pas complexe, qu'elle peut se autodéterminer facilement, alors qu'on voit très bien que pour lui, la volonté est toujours une lutte, un combat incertain, difficile, et qu'on a sans cesse à lutter contre l'éclatement possible de soi-même. Donc la volonté, bien entendu, pour Nietzsche n'est pas niée, mais elle est un combat difficile parce qu'il s'agit toujours de tenter de dominer diverses forces qui vont plutôt dans le sens de l'éclatement si on les laissait à elles-mêmes. Alors, en même temps, ça c'est la première grande affirmation, ce qui est aussi mis en cause, c'est le concept de libre arbitre. De libre arbitre, non seulement du concept de volonté, mais du concept de libre arbitre. Freie Wille. C'est une notion d'origine, évidemment les historiens peuvent toujours dire que c'est plus complexe, mais je crois que c'est tout de même Augustin qui le premier a introduit dans ses grandes analyses sur la liberté, sur la volonté, cette notion de libre arbitre. Le libre arbitre, on pourrait dire, est cette instance intérieure à la liberté qui met l'homme devant des choix sans encore que ces choix soient déterminés. C'est le ou bien je vais au cinéma ce soir pour me détendre, ou bien je lis un roman policier. Voilà, je suis devant cette indétermination. La liberté va être l'option positive pour l'une ou l'autre de ces alternatives. Donc la liberté va impliquer, je pense ici à Augustin évidemment, le choix d'une valeur. Je veux me reposer, donc je vais au cinéma ou je vais voir un ami malade. On voit très bien que ce n'est pas la même valeur. Mais la liberté suppose la volonté de l'indifférence. Alors, non seulement, et c'est le point que je voudrais souligner, Nietzsche, dans ses textes, se balaye d'un revers de main cette idée de libre, ce qu'ils appellent ici de libre arbitre, mais aussi l'idée de self-arbitre. Self-arbitre, unfreien Willen, la volonté non libre. Alors ici encore, comme souvent dans les textes, Nietzsche ne dit pas à qui il pense, mais quiconque a un tout petit peu de culture théologique ne peut pas ne pas penser à Luther, qui est une de ses grandes cibles, une de ses grandes têtes de Turc, si j'ose dire. Bon, parce que Luther, dans sa théologie de la grâce, pense que, à cause du péché originel, la liberté humaine et donc la volonté humaine ont été foncièrement corrompues, que l'homme est incapable du bien, et donc que sa volonté est serve, qu'il est esclave du péché. Et que de lui-même, l'homme ne peut pas choisir le bien et qu'il est, en quelque sorte, déterminé, disons, porté au mal. C'est ce qui se passe chez les méchants, ce que Luther appelle les méchants. Seule la grâce de Dieu, pour le chrétien qui reçoit cette grâce, pour le chrétien prédestiné, peut nous porter au bien. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Donc, je crois que c'est contre cette théologie, cette théorie, que Nietzsche s'élève aussi ici. Donc, opposant les deux thèses contradictoires, ou celle de la totale liberté, je ne dépends que de moi-même, je suis cause à suivi de moi-même, ou la thèse exactement inverse, l'être humain est dans une totale servitude, la liberté est non libre, et aux yeux de Nietzsche, il s'agit d'un mythe, c'est d'ailleurs ce qu'il dit clairement. Il s'agit d'un mythe, disons, si vous voulez, d'une illusion majeure, parce que, concrètement, à nouveau, Nietzsche ne prend pas une voie moyenne, c'est une autre perspective, il n'y a à ses yeux que des volontés plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles. Et donc il rompt par rapport à son protestantisme natif, si je puis dire, c'est-à-dire l'idée de l'homme serf, de la liberté corrompue, de la nature humaine corrompue, mais il rompt aussi par rapport à une perspective cartésienne de la totale liberté de l'homme. Donc la volonté humaine, si l'on veut la regarder de près, est un jeu subtil entre des pulsions et la possibilité plus ou moins grande qu'à chacun de se commander à lui-même. Alors ces deux positions dévoilent en effet deux philosophies antinomiques finalement de l'homme. Elles sont ce que Nietzsche appelle des symptômes. C'est un vocabulaire important parce qu'il renvoie au vocabulaire de la maladie, qui, comme nous l'avons vu, est tout à fait essentiel chez Nietzsche, d'abord à cause de ses propres maladies permanentes, mais la maladie, on la découvre à travers des symptômes, la fièvre, le maux de tête, etc., la diarrhée, l'impossibilité de dormir. Donc il est très important d'analyser les symptômes, et dans d'autres textes, Nietzsche dit que le rôle finalement du psychologue moral, c'est de bien voir les symptômes, et comme toujours, les symptômes appellent une interprétation. Auslegung. Une interprétation des symptômes. On a la fièvre, ça veut dire quoi? Ben, il faut interpréter. Le rôle du médecin, c'est justement d'interpréter, de dire c'est pas grave, une indigestion, ça va passer dans deux jours, ou de dire attention, c'est signe de quelque chose de plus grave. Bon, donc rôle de l'interprétation. Et ici, au fond, ces deux positions disent beaucoup, ça c'est un thème très nietzschéen, sur le locuteur, celui qui tient ses positions. D'un côté, on a affaire, et c'est des propos de Nietzsche lui-même, à une position de vanité et d'orgueil qui renie toute dépendance et toute influence sur soi, et de l'autre côté, le mépris de l'homme qui est tenu pour incapable de toute forme de bien, avec le risque, et nous retrouverons ce thème et nous l'avons un peu rencontré, que dans les deux cas, puisque je ne suis pas libre ou libre de tout, mais surtout dans le deuxième cas, parce que je ne suis pas libre, on va chercher des responsables ailleurs. On va chercher des coupables ailleurs. Moi, je suis le pauvre type qui est asservi, qui ne peut pas, évidemment, me dominer moi-même. Je suis une feuille dans la tempête. Mais il y a des responsables qui font que je suis exploité, que je suis pauvre, que je suis malade. Donc, je ne suis ni responsable, ni coupable, mais il doit bien y avoir quelque part des responsables et des coupables. Moi, je ne suis pour rien, mais c'est le capitalisme, c'est la grande bourgeoisie, c'est les prêtres, c'est en fait tout ce que Nietzsche appelle des images en effigie, des abstractions. Dieu méchant, si le monde va mal, si on meurt, c'est parce qu'on a un Dieu impitoyable, etc. Et moi, je suis la pauvre victime de ce Dieu méchant. Et de même que, voilà, dans une perspective plus marxisante, on dira à nouveau, ben, si je suis exploité, si j'ai un salaire si médiocre, c'est parce qu'il y a d'affreux bourgeois qui s'en mettent plein les poches, et moi, je suis un pauvre type qui ne peut pas me défendre, donc, etc. Vous voyez. Bon, moi, je ne suis pour rien dans tout ça, bien entendu. Mais il y a quelque part des gens qui exploitent les autres. Ça, c'est l'attitude de ce que Nietzsche appelle le faible. L'esclave va nous dire, moi, je ne suis pour rien dans ce qui m'arrive. Mais il y en a d'autres qui le sont. Voilà, une sorte de fatalisme du faible qui pousse sans cesse à gémir sur l'impuissance supposée dans le malheur de l'homme. Nous sommes tous victimes des maux que nous subissons. Alors, comme nous avons vu, n'est-ce pas, c'est la religion, ce qu'il appelle la religion de la souffrance humaine, à la fin de ce paragraphe 21. La religion de la souffrance humaine. Nous sommes tous des victimes. Et alors, je crois que c'est d'une grande actualité, on voit très bien dans un débat, si quelqu'un parvient à prendre la position de la victime, il est dans une position inexpugnable. Parce que dès que vous allez critiquer la victime, vous êtes un affreux individu. Pas forcément, puisque vous êtes du côté de celui qui exploite la malheureuse victime. Bon, je crois que c'est assez juste. C'est dit, personne n'est responsable, ni du climat, ni de la crise financière, ni de ce que vous voudrez, mais il y a quelque part d'affreux individus qui, eux, manipulent tout ça. Alors, en réalité, ce sont, aux yeux de Nietzsche, deux positions alibi qui refusent de situer la liberté là où elle se joue, à savoir dans la volonté humaine elle-même. Et je crois que c'est une idée très intéressante, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais de dire c'est nous-mêmes qui faisons notre malheur. C'est à nous-mêmes qu'il faut nous en prendre. De même que c'est à nous-mêmes que nous devons de nous ouvrir au oui, au monde tel qu'il est. Donc c'est l'homme qui s'asservit ou qui s'émancipe. Mais il est plus facile d'accuser des entités abstraites pour justifier sa passivité, ou à l'inverse, de revendiquer, c'est l'autre position, une toute-puissance que l'on n'a évidemment pas. Alors, je conclus ce petit examen du paragraphe 21. On voit bien que pour Nietzsche, et cela nous évite, je crois, des contresens, la volonté humaine n'est pas toute-puissante, quand on fait de Nietzsche un Prométhéen, l'homme qui s'affirme avec force et toute puissance, c'est une stupidité. Il suffit de lire quelques textes, on se voit que c'est pas vrai du tout. Elle n'est ni toute puissante, ni illusoire. C'est les deux, je dirais, interprétations qui, à mon avis, sont tout à fait défaillantes et même fausses. La volonté existe dans ce combat qui vise la domination de ses pulsions. Domination, encore une fois, relative. Hein. On n'est pas dans Corneille, où je suis maître du monde comme de moi-même comme du monde, pas du tout. Il s'agit de lutter contre des pulsions qui ne cessent d'être là. C'est un combat jamais clos. Alors, on pourrait dire, de ce point de vue-là, Nietzsche est plus chrétien qu'il ne pense. Parce qu'après tout, j'ai fait allusion tout à l'heure à Saint-Augustin, ce n'est pas pour rien. Parce que cette analyse, si vous voulez, introspective de la volonté, on ne la trouve pas chez les Grecs en tant que telle. La volonté est une force qui se déploie d'elle-même. C'est la réflexion chrétienne. Et notamment Saint Paul, au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, « Le bien que je fais, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Et donc, ma volonté est déchirée. Je n'arrive pas à me rejoindre moi-même. » Bon, ça c'est une idée proprement chrétienne, parce qu'à partir du moment où on insiste sur l'intériorité, le cœur, l'intention, quand on dit, vous voyez, l'adultère, c'est pas d'abord de coucher avec une femme, mais c'est déjà dans le regard à son endroit que vous commettez l'adultère, je me dis, mais alors est-ce que je suis pas un adultère féroce, parce que chaque fois que je vois une belle femme dans la rue, je me dis, tiens, vous voyez, bon, donc voilà, alors est-ce que c'est vraiment un adultère ou... On voit très bien la pente de la culpabilisation que Nietzsche va tellement critiquer dans le christianisme, mais il n'en reste pas moins que cette idée de la duplicité de la volonté, qu'évidemment Augustin va orchestrer magnifiquement, je crois est un thème assez chrétien que Nietzsche reprend à sa façon, évidemment, à lui. Alors, cette analyse débouche, et nous allons le voir tout à fait clairement, je l'ai dit il y a un instant d'ailleurs, sur la question morale. Nietzsche pense qu'il y a un lien très profond, ce qu'il appelle la psychologie, au fond ce que je viens de dire, la psychologie, complexité de la volonté, cette psychologie débouche sur la morale, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux quand je veux quoi que ce soit. Quelle est la qualité de ma volonté? Quelle est la valeur de ma volonté? Et quand je pose cette question de la valeur, ben, je suis, comme dit Nietzsche, sur le terrain de la morale. Est-ce que je veux... une croissance de moi-même, est-ce que je veux être créateur de moi-même, ou est-ce que je m'amnihile? Est-ce que je m'asservis, ou est-ce que je suis capable d'avoir une attitude de distance, une attitude aristocratique, comme il dira lui-même? Et donc, chaque acte doit être jugé à cette échelle du plus ou moins de degré de l'affirmation et de la négation. D'où l'importance que Nietzsche accorde à la psychologie. On peut lire la fin du dernier paragraphe de cette première partie, le paragraphe 23. Jamais un monde de connaissances plus profonde ne s'est ouvert à la hardiesse des navigateurs et des aventuriers. Nietzsche se compare quelquefois dans Langue et Savoir à Christophe Colomb, qui découvre des terres nouvelles, enfin, qui croit découvrir les Indes, mais qui découvre autre chose. Bon, c'est un peu ça, l'inconscient. On croit découvrir, puis on découvre autre chose. Bon. Ben, le navigateur, c'est ça, il prend des risques, il va sur la mer, et puis il découvre autre chose que ce qu'il comptait découvrir. Alors jamais un monde de connaissances plus profondes ne s'est ouvert à la hardiesse des navigateurs et des aventuriers, et le psychologue qui se sacrifie, entre guillemets, de la sorte, c'est-à-dire qui passe sa vie à réfléchir à ça, aura au moins le droit de réclamer en échange que la psychologie retrouve son statut de science maîtresse, que toutes les autres sciences sont pour tâche de servir et de préparer. Car désormais, la psychologie est redevenue le chemin qui conduit aux problèmes essentiels. Bon, c'est une grande prétention que la psychologie aujourd'hui ne suit certainement pas, mais ce que ça veut dire, c'est que on ne débouche sur les problèmes essentiels, c'est-à-dire la métaphysique ou la religion, qu'en prenant en compte ce passage par l'analyse de la volonté, par cette analyse de la subjectivité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, donc d'un côté, cela nous ouvre aux questions morales, et cela nous ouvre aux questions de religion, et je voudrais passer, sauf s'il y a quelques questions, à une interrogation, mais passer au paragraphe 59. Je voudrais simplement ajouter que, évidemment, on peut se demander, est-ce que, en attribuant à la volonté le lieu d'interrogation des questions essentielles, c'est-à-dire métaphysiques et religieuses, Nietzsche ne retombe pas dans le reproche qu'il faisait à Schopenhauer, c'est-à-dire de faire de la volonté le lieu, la clé de la réponse à toutes les questions. Donc est-ce qu'à nouveau, et c'est toujours la critique que refera par exemple Heidegger, en prétendant casser par rapport à la métaphysique, disons critique de la causa sui, mais en redonnant à la volonté une place essentielle, Nietzsche ne rechute pas dans la métaphysique. Bon, alors je crois qu'il faut prendre cette objection au sérieux. On peut toujours s'amuser à ça, dire vous croyez être sorti de la métaphysique, mais vous y retombez. Bon, c'est ce que Derrida fait à propos de Lévinas, Lévinas le fait à propos de Heidegger, enfin bon, et on peut dire à nouveau, mais Derrida lui-même, bon, on n'en sort plus, c'est pas, de cette espèce de glu de la métaphysique, ce qui d'ailleurs mériterait réflexion. Non, je crois ce qu'il faut en conclure, c'est que ce concept de volonté, et notamment de volonté de puissance, n'est pas un concept explicatif. C'est pas un concept explicatif, il faut se méfier des mots, comme il nous est dit d'ailleurs dans ce paragraphe que nous avons lu. La volonté de puissance n'est pas une cause extérieure aux effets, n'explique rien, parce qu'elle est simplement le terme qui désigne, de manière conventionnelle, un mouvement de la réalité qui est constitutive d'elle-même. Nous allons le revoir tout à l'heure, la réalité elle-même est chaos. Mais ça n'est pas une explication, c'est un regard porté sur, c'est une interprétation de ce qui est. Et on pourrait dire que cette volonté de puissance, elle est si loin d'être une réponse, et qu'elle est une hypothèse à mettre à l'épreuve. Dans quelle mesure, c'est pour ça qu'il dit, ça nous ouvre un champ de connaissances, en telle mesure est-elle féconde? On trouve toujours la même idée, l'hypothèse est-elle féconde ou pas? Qu'est-ce qu'elle éclaire et peut-être a-t-elle des limites? Alors, il est vrai que Nietzsche lui-même va verser, surtout dans des écrits posthumes, dans une attitude un peu scientiste pour essayer de faire de la volonté de puissance une cause explicative de la, par exemple, de l'évolution ou de l'éternel retour lui-même. Mais ce ne sont pas des textes qu'il a publiés, donc je dirais c'est une espèce de tentation, qui n'est pas nécessairement très heureuse et qui est sans doute à cet égard une rechute dans la plus mauvaise métaphysique. Il y a une clé qui ouvre finalement toutes les portes. Bon, je crois que si on regarde bien de près, cette volonté de puissance est une tentative d'ouverture, de regard, d'interprétation mouvante et qu'il faut mettre à l'épreuve. Voilà, alors, on pourrait dire que, et nous allons passer à la suite, que le grand problème, c'est de savoir pourquoi la volonté a-t-elle tant de peine à se vouloir elle-même. Comment se fait-il qu'elle, et on retrouverait quand même un peu le brave Luther, comment se fait-il qu'elle est aussi tentée de se trahir elle-même, c'est-à-dire de devenir esclave? Et vous remarquerez que Nietzsche réemploie ce mot de servitude, n'est-ce pas, la liberté serve, le serf-arbitre. Nietzsche ne récuse pas totalement cette idée, puisqu'il va s'interroger pour savoir comment se fait-il que l'homme, tout en étant appelé à être créateur, affirmateur, etc., se complaît, on pourrait dire très majoritairement, dans la servitude. Alors je crois que ceci va nous ouvrir au chapitre sur la religion, que nous allons voir avec le paragraphe 59, puisque aux yeux de Nietzsche, la religion est, les religions, la religion chrétienne en particulier, est un lieu où la volonté trouve en effet à la fois une satisfaction, une réponse, mais dans la servitude. Voilà, bon, avant de passer à la suite, peut-être avez-vous des questions sur ce que nous avons vu la dernière fois, sur Schopenhauer, et puis ce paragraphe 21 que j'ai survolé un peu vite. Non, tout est... Oui. C'est ce que nous allons voir dans la suite, hein, puisqu'il y a toute une partie consacrée à ça. Là, je ne faisais qu'entrouvrir la porte par laquelle nous allons passer. Parce que c'est pour montrer aussi quand même que cette pensée qui est très éclatée, elle est très cohérente. Hein. Très cohérente, c'est pas un système au sens égalien, mais enfin, c'est, quand vous tirez un fil, vous tirez tous les autres. Je crois quand même, oui. Bon, écoutez, si vous êtes sans question. Alors, on va passer à ce paragraphe 59, c'est-à-dire à la troisième partie. Alors, je vais d'abord dire quelques mots sur cette troisième partie, parce qu'elle est consacrée à la religion, et puis j'en viendrai au paragraphe 59. Je vais insister un peu quand même sur cette troisième partie. Comme je vous l'avais dit à un moment, il ne faut pas chercher trop de rigueur dans l'organisation de ces parties, c'est un petit peu des, je dirais pas des fourre-tous excessifs, enfin c'est des textes que Nietzsche a rassemblés un peu allègrement, je ne crois pas qu'il y a pour m'en parler un plan. Je voudrais remarquer, mais il y a quand même une insistance sur la religion. Tout n'est pas dit ici de la pensée de Nietzsche sur la religion, mais un somme de choses essentielles. Alors, je voudrais remarquer d'abord la difficulté du titre lui-même, parce que le titre allemand, c'est « Das religiöse Wesen ». Et « Wesen », en allemand, ça n'est pas le phénomène, c'est l'essence, c'est la nature. C'est l'acuité. Et le phénomène, c'est au contraire l'apparence qui laisse entendre qu'il y a derrière quelque chose de plus essentiel. Alors, il n'y a pas de très bonne traduction. Il faudrait dire l'essence religieuse, la nature de la religion. En tout cas, l'allemand, ce n'est pas le phénomène religieux qui nous conduira à une phénoménologie de la religion. On examinerait les diverses religions. Nietzsche veut ici atteindre le Wesen, l'essence de la religion. Bon, tous ces textes ne sont pas nécessairement les plus percutants, ni même peut-être les plus intéressants de Nietzsche, mais je crois qu'on peut en tirer quand même pas mal de choses. Je vais tenter de le faire. Parce que si Nietzsche prétend, au paragraphe 45, donc au début, avoir beaucoup de rigueur intellectuelle, moins qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas toujours fidèle à ce programme. Si je regarde le paragraphe 45, à peu près au milieu, pour deviner et pour établir ce qu'a été jusqu'à présent l'histoire du problème de la science et de la conscience dans l'âme des homines religiosi, c'est une expression qu'il utilise assez souvent, il faudrait un homme qui fût lui-même aussi profond, aussi blessé, aussi extraordinaire que l'a été la conscience intellectuelle d'un Pascal. Je vais revenir sur cette référence. Et par surcroît, il faudrait déployer au-dessus d'elle un firmament d'intelligence lucide et méchante qui lui permettrait de considérer d'en haut ce fourmillement d'expériences pleines de dangers et de souffrances, de les ordonner, de les formuler. Donc, on voit très bien qu'ici, Nietzsche dit, vous savez, c'est un problème énorme, la religion. Il faudrait un esprit absolument gigantesque pour arriver à brasser tout ça. Donc, ça a l'air de dire, attention, je vais vous dire, vous savez, c'est bon. En réalité, il va avancer gaillardement, l'épée au poing, sans avoir trop de scrupules sur ce qu'il va dire. Bon, ben, il faut le prendre tel qu'il est, c'est ainsi qu'il avance. Alors, je reviens sur la référence à Pascal, parce qu'elle est au début de notre texte, 45 et 46, qui revient encore sur Pascal. La foi de Pascal, qui ressemble terriblement à un suicide continu de la raison, d'une raison acharnée à survivre et rongeuse comme un ver, dont il est impossible de la tuer d'un seul coup. Donc, il est au début et il est au dernier paragraphe de cette partie, puisqu'il dit, c'est un paragraphe assez long, voilà, « Celui qui s'approcherait avec des exigences inverses, non plus en épicurien, mais armé de quelques divins marteaux, du type presque volontairement abattardi et diminué que représente l'Européen chrétien, Pascal par exemple, cet homme n'aurait-il pas sujet de s'écrier « imbécile », etc. » Bon, alors, je crois qu'il faut bien voir que Pascal, au fond, commence et termine ce texte, et en ce sens, je crois qu'il faut prendre cette référence au sérieux, parce que aux yeux de Nietzsche, Pascal, qu'il admirait beaucoup, comme il le dit dans Ecce Homo, n'est-ce pas, ceux qu'il critique le plus sont ceux dont il se sent le plus proche. Ce sont ses ennemis qui comptent, côté un peu chevaleresque. Ce sont les ennemis qui comptent, les gens qui sont d'accord avec vous, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est ceux qui s'opposent à vous, qui vous stimulent. Bon, mais Pascal est de ceux-là. Et Pascal a une conscience intellectuelle extraordinaire, paragraphe 45. Une conscience intellectuelle extraordinaire. Et il en a déjà parlé plusieurs fois, notamment les considérations intempestives, et encore ici, comme je l'ai dit, au paragraphe 58, je vous y renvoie, je ne vais pas lire tous ces textes. Alors, c'est un passage intéressant, et je dirais qu'il nous renseigne beaucoup, bien que l'essentiel ne soit pas là, sur la critique nietzschéenne du christianisme, disons de la religion chrétienne. Nous avons déjà vu que, aux yeux de Nietzsche, ce qui importe, ça a été la fonction culturelle des, ce qu'il appelle au paragraphe 62, les religions souveraines, qui est quelque chose de positif, c'est-à-dire qui ont été capables de former des volontés, de les éduquer, et donc le christianisme a été la matrice de l'homme européen. Il a été la matrice de l'homme européen. Il a, au paragraphe 62, il a façonné, c'est le dernier paragraphe, il a façonné l'homme européen. Et je voudrais simplement vous faire remarquer cette phrase souvent citée, pas facile à comprendre. Chez les hommes, les réussites constituent toujours l'exception. Et compte tenu du fait que l'homme est l'animal non encore fixé, l'exception rarissime. Voilà, l'homme, une espèce non encore fixée. Il faut corriger la traduction, ce n'est pas l'animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé, c'est l'animal non encore fixé. C'est-à-dire l'homme est un animal, mais il n'est pas encore entièrement déterminé. Ça veut dire donc qu'il est éducable, que le christianisme l'a éduqué d'une certaine façon, c'est-à-dire à nouveau dans la servitude, mais qu'il y aurait une autre façon de l'éduquer. Alors je crois qu'il ne faut pas faire glisser ce texte du côté de darwinisme, dire « Ah ben oui, nous sommes à une étape, mais l'évolution naturelle fera que demain, le cerveau humain aura quatre fois plus de capacité qu'aujourd'hui, nous pourrons, avec des ordinateurs magnifiques, calculer je ne sais pas quoi. » Non, l'idée c'est que, et je crois que c'est une idée anthropologique très, très, très vraie, l'homme naturellement est inviable, comme disait le roi Gouran, mais il peut être fixé par une formation qui va lui donner les moyens de survivre. Alors, le christianisme a été cette prise en main de l'animal non encore fixé pour le fixer d'une certaine façon. Alors, on pourrait dire que, paragraphe 62, le christianisme, je le cite, a été jusqu'à présent la forme la plus funeste de la surestimation de soi. Et d'autre part, la paragraphe 47, la foi chrétienne est depuis le début sacrifice, c'est-à-dire mutilation. Alors on va dire à nouveau, ce pauvre Nietzsche, en trois paragraphes, se contredit totalement. D'un côté, il accuse le christianisme d'avoir donné à l'homme un sentiment d'orgueil, de surestimation de soi. Et d'un autre côté, il lui reproche de l'avoir mutilé, de l'avoir appelé au sacrifice. Eh bien, je crois qu'il faut tenir les deux à la fois. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant et suggestif. Le christianisme, disons surtout paulinien, enfin peu importe, le christianisme aux yeux de Nietzsche a d'abord été une surévaluation de l'homme. Pourquoi ? Mais parce que le christianisme a dit à ce petit animal, je vais lire des textes tout à l'heure, féroce, ce petit animal voué à la mort, à la décomposition, on lui a dit, tu es appelé à la vie éternelle en Dieu. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus grand ? Donc je ne suis pas des tripes, je ne suis pas de neuronal, je ne suis pas... Je suis ça. Mais le christianisme me dit, mais tu es bien autre chose que ça, n'est-ce pas? Orgueil de l'homme, je ne suis pas comme la mouche qui va... Hein. Surestimation de soi. Je crois que c'est un point capital. Hein. Le christianisme a survalorisé. Il lui a fait croire qu'il était appelé à une vocation divine et sans commune mesure avec le reste de la création. Si on oublie ce point, je crois qu'on rate le point essentiel de Nietzsche. Mais il y a l'inverse de la médaille, c'est que c'est cette surestimation de soi qui oblige au sacrifice de soi. Ah ben bien entendu, parce que si vous êtes appelé à être saint comme Dieu est saint, ah ben attention, il faut être à la hauteur de votre vocation. Donc il ne faut pas suivre toutes vos passions, il ne faut pas vous laisser livrer à vos tentations, il faut lutter pour être à la hauteur de la vocation. Et donc il faut, on retrouve ici la critique du platonisme, il faut abolir autant que possible tout ce qui vous démunit du monde sensible, et on trouve peut-être un peu Schopenhauer. Il faut en effet vous présenter pur, loyal, droit, saint comme Dieu est saint. Donc, la surestimation est la source d'un christianisme comme excès, excessif dans son ascèse, je vous renvoie à l'aphorisme 47, que je ne vais pas lire parce qu'on ne sortirait plus, par les modèles de sainteté qu'il a donnés, paragraphe 51, on va faire comme François Xavier, courir les mers, ou bien comme même Madre Teresa, ramasser les cadavres sur les trottoirs, magnifique, oh là là, bon, c'est beau, je vais me tuer pour ça. Et voilà, je me tue pour ça, pour l'idéal. Comme toujours chez Nice, l'idéal est mortifère. Magnifique et mortifère. Bon, la fascination des saints, paragraphe 51. Pour sa passion pour Dieu, paragraphe 46 et 50. Je vous renvoie à la lecture de ces textes, ils sont assez féroces. Je dirais que nous retrouvons aussi un thème que nous avons croisé l'autre jour, c'est que à partir du moment où la foi chrétienne n'a plus cette position éducatrice de l'animal non fixé, à partir du moment où la surévaluation, j'allais dire, ne marche plus, le risque est grand, nous l'avions vu dans le texte de la préface, que l'arc se détende. Et au fond, pour Nietzsche, une des raisons de l'athéisme contemporain dominant, du refus de Dieu, c'est le refus de cet ensemble que je viens de dire. On ne croit plus à l'idéal chrétien, c'est-à-dire on ne croit plus qu'on soit appelé à la divinisation de soi, et donc on ne croit plus non plus à la morale qui en découle. Et donc l'athéisme est cette espèce de désaveu qui renvoie l'individu à lui-même et qui risque en effet d'aboutir à un affaissement de l'individu sur lui-même. Parce qu'on a trop cru à l'idéal, que l'idéal nous a déçus, nous retombons sur nous-mêmes. Je crois qu'on pourrait très bien appliquer ça à l'idéologie marxiste. Nombre de gens ont cru à l'avenir radieux. Ils se sont tués pour ça, ils ont éventuellement brisé leur famille, ils ont été militants partout, ils ont pris des coups de crosse des CRS dans les manifs et ainsi de suite. Puis un beau jour, il est court. Tout ça, c'est de la vanité. Alors après, vous étonnez que les types ne soient pas très militants. Hein, qu'on dise, bon, ben, je vis du présent, je jouis de ce qui est, et puis je ne vais pas me battre. Parce que se battre, pourquoi? Pour quel idéal? Bon, je crois que c'est ça l'idée. Ça s'affaisse. Mais ce qui s'est affaissé, ce n'est pas la critique qu'on fait. C'est que l'idéal lui-même montre sa vanité. C'est un peu ça, d'ailleurs, ce que Nietzsche va dire dans tous ses textes. Bon. Alors, le versant final de cette quatrième partie est consacré au relais que doit prendre, selon Nietzsche, la philosophie future. Alors, c'est intéressant de voir que cette philosophie du futur, ce philosophe du futur, il est mis sur le même rang que das religiöse Wesen, que le philosophe de l'avenir doit avoir un rôle éducateur au même titre que le christianisme en a eu en Europe. Alors, évidemment, c'est une prétention qui peut paraître exorbitante, qu'il faudrait analyser de près. Mais au fond, Nietzsche lui-même se situe, et là encore c'est bien remarquable, au niveau même de la religion chrétienne dans son rôle éducateur de la volonté humaine. Et ce n'est pas un hasard si au paragraphe 56, on a une allusion voilée à la doctrine de l'éternel retour. Si vous regardez le paragraphe 56, je vais le lire rapidement, c'est la fin qui compte. « Celui qui, comme moi, doué de quelques mystérieuses curiosités, s'est longuement appliqué à penser le pessimisme en profondeur, c'est Schopenhauer, et à le délivrer de l'étroitesse et de la simplicité mi-chrétienne, mi-allemande, avec lesquelles il s'est manifesté pour la dernière fois en ce siècle, sous l'aspect de la philosophie schopenhauerienne, celui qui a vraiment plongé une fois un regard asiatique et plus qu'asiatique dans les abîmes de la pensée la plus radicalement négatrice par-delà bien et le mal, et non plus comme Bouddha et Schopenhauer dans l'orbite de la morale et de son illusion, celui-là aura peut-être ouvert les yeux, sans même le vouloir, sur l'idéal opposé, celui de l'homme le plus généreux, le plus vivant, le plus affirmateur, qui ne se contente pas d'admettre et d'apprendre à supporter la réalité telle qu'elle fut et telle qu'elle est, stoïcisme en gros, mais qui veut la revoir telle qu'elle fut et telle qu'elle est pour toute l'éternité, qui crie insatiablement da capo, on revient au début, terme musical, en s'adressant non pas à lui, mais à la pièce et au spectacle tout entier, et non seulement un spectacle, mais au fond à celui qui a besoin de ce spectacle et le rend nécessaire, parce qu'il ne cesse d'avoir besoin de soi et de se rendre nécessaire, et quoi ne serait-ce pas là un circulus viciosus deus, un dieu cercle vicieux. Alors, je crois qu'il souligne deux choses. Comment sortir de ce pessimisme mi-allemand, mi-chrétien ? Eh bien, justement, par l'affirmation joyeuse de ce qui est tel que c'est. Le fameux « oui » affirmatif qui marque le Zarathoustra. Le chant devant le monde tel qu'il est, c'est-à-dire non pas en le triant, c'est-à-dire en éliminant les horreurs qu'il comporte, en n'en tenant que la beauté, mais en disant oui à tout ce qui est. On pourrait dire que c'est ça le message, entre guillemets, Nietzsche, dire oui à ce qui est. Donc, non pas dire je suis victime de ce monde est mauvais, ce monde est méchant, il y a un dieu affreux qui me tyrannise, mais non, dites oui à ce qui est, point. Et ce qui est, vous devez le vouloir en sa totalité, et vouloir qu'il revienne à lui-même. Alors, il y a une allusion mystérieuse à un petit dieu, n'est-ce pas ? À celui qui a besoin de ce spectacle. Qui est celui qui a besoin de ce spectacle, qui le rend nécessaire ? Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas éliminer ces textes mystérieux, mais vous remarquerez que le dernier paragraphe de Par-delà bien et le mal, c'est la visitation du petit dieu Dionysos. N'est-ce pas ? Et puis vous avez cette idée, celui qui une fois a eu ce regard, mais le une fois c'est la révélation Offenbarung de Sils Maria, en août 1881, ou au bord du lac de Sils Maria, Nietzsche a cette espèce de révélation de la splendeur du monde, par rapport à laquelle il n'y a qu'à dire oui. Et pas dire oui une fois, dire oui une infinité de fois. Alors, voilà, je crois qu'il y a un petit aspect, mettons beaucoup de guillemets, quand même mystique. Il ne s'agit pas d'affirmer le monde, vous voyez, scientifiquement, là, il y a des lois, il y a des paramètres, il y a des calculs, etc., le rationalisme plat et idiot aux yeux de Nietzsche. Il faut vouloir la profondeur du monde et son mystère, parce qu'il y a quelqu'un qui le veut. Il dit quelquefois le Sherazade. Enfin, nous reviendrons sur ce point. Je croirais qu'un dieu qui saurait danser. Danser, c'est-à-dire qui danse, qui ne crasse pas par la morale, mais qui danse. Je laisse ces points en suspension. Je crois qu'il faut quand même souligner l'importance, à peu près au milieu de cette partie de l'allusion à la doctrine et l'éternel retour, qui marque certainement un tournant. Et puis l'annonce d'un autre visage de la religion par la philosophie, c'est le dernier paragraphe. Avec, dans le même contexte, au paragraphe 60, et ça nous ouvrirait à une autre perspective dans laquelle je ne vais pas rentrer aujourd'hui, un hommage étonnant à quelqu'un que vous allez sans doute reconnaître. Aimez les hommes pour l'amour de Dieu. Aimez les hommes pour l'amour de Dieu. Tel fut le sentiment le plus noble et le plus élevé auquel les hommes aient pu parvenir. Que l'amour de l'homme est une sottise et une grossièreté de plus s'il ne s'y mêle pas une arrière-pensée de sanctification, que ce penchant à l'amour des hommes doit recevoir d'un penchant plus élevé sa mesure, son raffinement, son grain de sel, son auréole. Quel que soit l'homme qui a le premier ressenti et vécu, entre guillemets, ressenti et vécu cela, sa langue eut-elle bégayé quand il tenta d'exprimer une pensée aussi délicate, sa mémoire d'où nous rester à jamais sainte et vénérable, c'est l'homme qui a pris l'envol le plus haut jusqu'ici et qui s'est le plus admirablement égaré. Devinette, 1000 euros, ben, c'est évidemment Jésus. Mais attention, vous voyez, c'est toujours une couronne de roses avec quelques épines. Il a été l'homme le plus... celui qui a pris son envol le plus haut, mais qui s'est le plus trompé. Ça, c'est... Alors, on pourra venir là-dessus, c'est tout à fait la position nietzschéenne sur Jésus, qu'il admire énormément. Mais Jésus, comme il dit dans l'Antéchrist, est ou bien le premier chrétien, et tous les autres ne le sont pas, ou il n'est pas chrétien, et c'est les autres qui le sont. D'un nouveau, on va dire, ça va pas. Mais oui. Il était le premier chrétien, en sens qu'il a dit, ben, il faut dire oui. Mais c'est ça. Bon, c'est Nietzsche. Jésus dit oui. Simplement, il n'a pas vu qu'en disant oui, on ne disait pas pour autant que tout le monde, il était beau, il était gentil. Il n'a pas vu que dire oui, ça suppose de traverser les forces de mort. Voilà. Alors, on pouvait, je dis un petit mot simplement pour pas m'étendre, mais Jésus a dit oui, par exemple, réconciliez-vous avec vos ennemis. Partez pas en procès. Là, arrêtez de mettre vos offrandes à l'autel. Réconciliez-vous tout de suite. Pensez pas au lendemain. Regardez les petits oiseaux, Dieu leur fournit, etc. Bon. Pas la peine d'aller faire des sacrifices au temple. Dieu est dans votre cœur. Simplement, Dieu, le royaume est en vous. C'est très beau. Oui, mais alors, la justice, les avocats, vous en faites quoi? Les avocats, ils se trouvent à l'eau. L'économie est par terre. Si vous attendez que le bon Dieu vous donne demain matin votre nourriture. Les prêtres. Bon, Jésus n'a pas vu que se dire oui allait mobiliser toutes les forces du non. C'est-à-dire, il allait avoir contre lui les prêtres, la magistrature, les curés, etc. Et donc, on allait dire à ce type-là, il faut s'en débarrasser. Mais Jésus n'a jamais voulu sa mort. Ça, c'est aussi un technicien. Bon, mais vous voyez, l'envol le plus haut, parce qu'il a, par parenthèse, vous voyez qu'aux yeux de Nietzsche, l'amour de l'homme, quand on nous dit, ah, mais moi, je ne crois plus en Dieu, mais ah, l'amour de l'homme, les hommes aujourd'hui, l'humanité, ridicule, l'amour de l'homme, on est compte. Allez dire ça en Syrie, ou l'amour de l'homme. Il faut mettre une petite pincée de sel pour que l'amour de l'homme soit crédible. Alors, voilà, Jésus a dit, ben voilà, vous aimez l'homme, mais c'est pas l'homme que vous aimez seulement, c'est Dieu en lui. Voilà, donc c'est assez, je crois, typique. Comme toujours, à la Nietzsche, comprenne qui veut, qui peut, mais je crois que c'est tout de même assez clair. Alors, ça nous conduit à notre texte du paragraphe 59, mais on va peut-être, si vous voulez, s'arrêter là, avant de rentrer dans ce texte et de lire un certain nombre d'autres passages qui sont significatifs de la position nietzschéenne. Voilà, on prend quelques minutes.